Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sidoudia, bonjour. Au Tchad, la junte militaire dirigée par le fils du défunt président Idriss Déby Itno rend vendredi un dernier hommage à celui qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 30 ans en présence d'une dizaine de chefs d'État dont le français Emmanuel Macron et des homologues africains. Idriss Déby est mort lundi, selon la présidence tchadienne, à l'âge de 68 ans, des suites de blessures subies au front contre des rebelles. Son fils, Mohamed Idriss Déby, général de corps d'armée de 37 ans, nouvel homme fort du pays et chef du conseil militaire de transition, a promis de nouvelles institutions après des élections libres et démocratiques dans un an et demi. L'opposition, pour sa part, dénonce un coup d'État institutionnel. Nous retrouverons dans cette édition notre correspondant André Kotmajingar. Selon les Nations Unies, plus de 9000 personnes ont fui au Niger après une série d'attaques mi-avril contre la ville nigériane de Damasak. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU à Niamey, des milliers de déplacés continuent d'arriver à bord de véhicules ou à pied ou d'eau d'animaux à Gagamari et Chetimari, deux localités de la région de Diffa dans le sud-est du Niger, proche de Damasak. Le chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, Brahim Ghali, est soigné et se rétablit après avoir contracté le Covid-19, a indiqué jeudi soir la présidence de la RASD sans préciser où est soigné M. Ghali. Selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, Brahim Ghali, qui est âgé de 73 ans et souffrirait d'un cancer, a été hospitalisé d'urgence le 21 avril en Espagne, près de Saragosse, sous un nom d'emprunt algérien. Dernière minute, des affrontements entre les forces policières israéliennes et des manifestants palestiniens ont fait plus d'une centaine de blessés au cours de la nuit à Jérusalem, ont indiqué vendredi matin des sources médicales et policières. Le Croissant Rouge palestinien a fait état d'au moins 105 blessés, dont une vingtaine ont été transférés à l'hôpital, tandis que la police a ajouté avoir recensé 20 blessés dans ses rangs et arrêté 44 personnes lors de ces affrontements les plus violents de ces dernières années dans la ville sainte. Ces heurts ont éclaté alors que la police israélienne avait été mobilisée pour encadrer une marche organisée par le mouvement juif d'extrême droite, la Hava, un groupe ouvertement hostile aux Palestiniens à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem. Un incendie dans un hôtel tue 13 malades du Covid-19 dans la banlieue de Bombay en Inde, un pays qui continue de s'enfoncer dans une crise sanitaire majeure, battant jeudi un record mondial de près de 315 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, en raison notamment d'un variant indien dont la première détection en Belgique inquiète par ailleurs l'Europe, désormais orientée vers l'allègement des restrictions. Fin aujourd'hui du sommet virtuel sur le climat du président américain Joe Biden. Il a appelé jeudi le monde à l'action sur le climat en dévoilant le nouvel objectif de réduction des émissions polluantes, une posture largement applaudie par la communauté internationale. Nous retrouverons Yacouba Ouedraogo pour des détails. La Russie a annoncé jeudi qu'elle lancerait dès vendredi le retrait de ses troupes massées près de l'Ukraine et en Crimée annexée, mais Washington et l'OTAN sont restés prudents sur la fin de cette menace militaire. Le président Joe Biden s'apprête à reconnaître officiellement le génocide arménien au risque d'une détérioration des relations déjà tendues entre les États-Unis et le président Recep Tayyip Erdogan, qui a d'ores et déjà mis en garde ceux qui, je cite, « propagent un mensonge ». SpaceX envoie vendredi 4 astronautes, dont le français Thomas Pesquet, vers la Station spatiale internationale. Troisième mission de ce type du groupe privé depuis que les États-Unis ont repris les vols habités vers l'espace. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie Idrissa Sidoudia. Restez à l'écoute pour la suite de nos informations. suite de nos informations, le Tchad rend un dernier hommage au maréchal président Idriss Déby Itno, aujourd'hui à N'Djamena, en présence d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement, dont le français Emmanuel Macron arrivé hier soir dans la capitale tchadienne. Monsieur Déby est décédé le 20 avril des suites de blessures reçues au front après une attaque des rebelles du FACT contre les forces gouvernementales. Notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar, fait le point.
Soldat dans l'âme, Idriss Déby Itno ne ratait pas une seule occasion quand il s'agit de défendre l'intégrité territoriale en cas de menace. C'est ainsi que le destin en a décidé autrement le 20 avril dernier, si l'on s'en tient à la version de l'armée. La cérémonie de ses obsèques ce vendredi prévoit plusieurs temps forts. D'abord, sa dépouille sera déposée à la place de la nation, située en face du palais présidentiel, où elle recevra des honneurs militaires et des attributs du maréchalat. Ensuite, des témoignages de ses compagnons d'armes, de sa formation politique, de sa famille biologique, mais aussi de chefs d'État et de gouvernement des pays amis sont programmés. Alpha Condé de la Guinée-Conakry, qui a décrété comme au Mali 3 jours de deuil national chez lui, était le premier chef d'État africain à fouler le sol tchadien pour assister aux obsèques de son ami Idriss Déby Itno. Après lui, 4 autres chefs d'État, notamment du Niger, du Mali, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, sont déjà à N'Djamena. Sont attendus ce vendredi les présidents du Burkina Faso, du Togo, du Soudan et le président français Emmanuel Macron, pour ne citer que cela. 21 coups de canon seront tirés en mémoire du disparu et la journée de ce vendredi est décrétée fériée, chômée et payée. Après la cérémonie officielle, la dépouille mortelle sera remise aux parents pour une inhumation dans l'intimité familiale au cimetière d'Amjaras, son village natal dans l'est du pays. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU exprime sa préoccupation face aux accusations d'exactions au Tigré et réclame un accès humanitaire sans entrave. Il s'agit de sa première déclaration depuis le début du conflit en novembre dans cette région éthiopienne. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Dans leur déclaration, les membres du Conseil de sécurité se disent profondément préoccupés par les allégations de violations et d'abus des droits humains, y compris les informations faisant état de violences sexuelles contre les femmes et les filles dans la région du Tigré. Ils appellent à des enquêtes pour trouver les responsables et les traduire en justice. Le Conseil demande aussi une réponse humanitaire renforcée et un accès humanitaire sans entrave à toutes les personnes dans le besoin, y compris dans le domaine de la sécurité alimentaire. Les membres du Conseil réaffirment par ailleurs leur ferme soutien aux efforts et aux organisations régionales et sous-régionales pour contribuer à une solution au conflit. L'Irlande, qui a initié cette déclaration, s'est félicitée que le Conseil de sécurité ait finalement rompu son silence. La déclaration a été négociée depuis la dernière réunion le 15 avril du Conseil de sécurité. L'ONU avait alors dénoncé l'aggravation de la crise humanitaire, ceci alors que les troupes érythréennes, que l'ONU accuse d'atrocité, ne se sont toujours pas retirées comme l'exige la communauté internationale.
Le président Joe Biden a appelé hier le monde à l'action sur le climat lors de l'ouverture de son sommet sur le climat qui se termine aujourd'hui. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Nous devons passer à l'action, nous devons accélérer, a martelé le président Biden annonçant le doublement d'ici 2024 de l'aide pour le climat aux pays en développement. Il a promis de réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis de 50% à 52% d'ici 2030. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a rappelé que son pays va alimenter l'an prochain le Fonds vert pour le climat de 1,2 milliard de dollars supplémentaires. De son côté, le président Xi Jinping a réaffirmé l'objectif d'une neutralité carbone de la Chine d'ici 2060. Le président Vladimir Poutine a lui assuré que la Russie remplira avec responsabilité ses obligations internationales. Pour le premier ministre britannique Boris Johnson, l'annonce américaine pourrait donner le coup de fouet nécessaire aux négociations internationales. Quant à l'Union européenne, elle est parvenue à un accord sur une réduction nette d'au moins 55% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le président brésilien Jair Bolsonaro s'est engagé à mettre fin à la déforestation illégale en Amazonie d'ici 2030 et à avancer la neutralité carbone du Brésil de 10 ans en 2050. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ce sommet marque un tournant.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Le président sénégalais Macky Sall a présenté hier à Diamandio son plan emploi de 450 milliards de francs CFA suite au décret du 27 janvier pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Ce programme s'appuiera notamment sur la délégation de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, le Fonds national de la microfinance et le programme des domaines agricoles communautaires, mettant l'accent sur l'agro-business pour soutenir la transformation des produits locaux et l'autosuffisance alimentaire. Dans le cadre du projet du deuxième terminal à conteneurs du port d'Abidjan, Côte d'Ivoire Terminal a commandé 36 tracteurs électriques Gossin pour 6,5 milliards de francs CFA. Ces engins qui seront livrés à la fin de l'année vont équiper le futur terminal dont les travaux ont été lancés en octobre 2020. Ils vont permettre de réduire de 70% le coût de l'énergie consommée sur les terminaux. Pour couvrir ses besoins d'infrastructures routières, la République démocratique du Congo doit fournir 145 milliards de dollars, selon la directrice générale du Fonds national pour l'entretien routier, Georgette Selemani Touya. Lors d'une audience au Sénat, Madame Selemani a notamment sollicité une rallonge de l'enveloppe allouée au FONER pour le budget 2022.
Merci Nathalie, et maintenant les sports avec Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous, on connaîtra demain samedi le nom du nouveau sélectionneur des Bafana Bafana. Le compte Twitter de la Fédération Sud-Africaine de Football indique en effet que l'instance annoncera le nouvel entraîneur-chef des Bafana Bafana le samedi 24 avril 2021, parmi plus de 200 entraîneurs qui ont déposé leur candidature pour diriger la sélection nationale sud-africaine, des noms connus comme Hervé Renard, Hugo Bros, Philippe Troussier sont mis en avant. Le suspense prendra fin ce samedi et on saura qui va succéder à Nseki Molefi, limogé le 31 mars pour n'avoir pas qualifié les Bafana Bafana pour la prochaine CAN. L'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic, qui aura 40 ans en octobre prochain, a prolongé d'un an son contrat avec l'AC Milan, avec qui il jouera également la saison prochaine. L'annonce a été faite par le club rossonero. Ibra est revenu à Milan en janvier 2020, dans un club où il avait déjà évolué entre 2010 et 2012 et a largement contribué au redressement des rossoneri. Actuellement deuxième du championnat d'Italie, Ibrahimovic est le meilleur buteur du club lombard cette saison. La forme retrouvée avec Milan a aussi permis à Ibra de retrouver l'équipe de Suède en mars, près de 5 ans après ses adieux et 20 ans après sa première sélection. Sauf blessure, il devrait être l'une des stars de l'Euro dans un mois et demi. En février, il a passé la barre des 500 buts marqués sous les différentes tuniques de formation qu'il a endossées: Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelone, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, Los Angeles, Galaxy. Le président du FC Barcelone, Juan Laporta, insiste sur l'importance d'une Super Ligue européenne. Nous pensons que c'est une nécessité, soutient le patron du club catalan, assurant que les membres de la Super Ligue restent ouverts à un dialogue avec l'UEFA. Il s'agit de la première déclaration publique du président du FC Barcelone depuis l'annonce dimanche du projet de Super Ligue, torpillé 48 heures plus tard par le retrait de 10 clubs sur les 12 au départ. Laporta a confirmé que ce sont les socios, entendez supporters actionnaires, qui auront le dernier mot quant à la participation du Barça à une éventuelle future Super League. Pour sa part, Florentino Pérez, président du Real Madrid et premier président de la Super League, a fait savoir que le projet est en stand-by.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sebudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, de nouvelles réactions à la mise en place du Conseil militaire de transition après le décès du maréchal président Idriss Déby Itno, qui a succombé à des blessures reçues au front dans le nord du pays où il était allé commander en personne l'offensive de ses troupes contre les rebelles, selon l'armée. Les religieux joignent leur voix à celle des partis politiques de l'opposition démocratique et des acteurs de la société civile pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel et le dialogue national inclusif conduit par des instances politiques neutres et crédibles. Nous retrouvons notre correspondant sur place, André Kodmadjingar.
Nous le voulons avant tout comme un dialogue de réconciliation.
Monseigneur Edmond Djitangar, archevêque métropolitain de N'Djamena, pour le prélat tchadien, ce dialogue doit être conduit par une instance politique neutre et crédible afin de jeter la base d'un nouvel ordre politique consensuel fondé sur le respect des personnes, le souci des biens communs et la promotion de la justice sociale qui s'impose comme une nécessité.
Une nécessité pour une paix durable dans notre pays. Et pour cela, il est nécessaire que tous les belligérants déclarent unilatéralement un cessez-le-feu sans condition, déposent les armes et se concertent. Que la transition soit conduite dans le strict respect de l'ordre constitutionnel.
Vu la gravité de la situation et le risque de la guerre civile qu'encourt le Tchad, le porte-parole de la coordination de la plateforme des serviteurs de Dieu pour la justice, pasteur Kalepet Donon, exige la dissolution du conseil militaire de transition.
Dans le souci de créer un environnement de paix, de confiance mutuelle entre tous les Tchadiens, nous voulons, en tant que serviteurs de Dieu, exiger la dissolution pure et simple du Conseil militaire de transition. Demander instamment le retour à l'ordre constitutionnel, demandons aux militaires de regagner les casernes pour s'occuper uniquement des questions sécuritaires.
Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Dida Oumar, joue à l'apaisement.
L'heure n'est certainement pas aux agitations et aux comportements. Des déclarations à l'emporte-pièce, car il ne faut pas perdre de vue que l'environnement immédiat du Tchad est plus critique. La Commission nationale des droits de l'homme en appelle au sens de responsabilité des leaders d'opinion de tous bords, afin qu'ils apportent des contributions positives à la consolidation de notre État plutôt que de prêcher pour le chaos et l'institutionnalisation du désordre.
Les femmes tchadiennes, quant à elles, rendent hommage au président Déby pour saluer inlassable en leur faveur.
Nous, femmes tchadiennes, sans aucune distinction, exprimons notre profonde reconnaissance et tenons à honorer la mémoire du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno.
Mariam Mahamat Nour, présidente du CONAF, Conseil national des femmes leaders du Tchad, et ministre secrétaire général du gouvernement du défunt président, elle se réjouit du résultat.
Nous, femmes et filles tchadiennes, grâce à la volonté et au regard bienveillant du maréchal du Tchad, avons connu des grandes avancées dans nos droits et notre statut. Aujourd'hui, plus que jamais, nous les femmes et filles tchadiennes faisons nôtre les messages du maréchal du Tchad qui visent à consolider l'unité nationale, la fraternité et la tolérance entre les fils et filles d'une même nation.
En rappel, le conseil militaire de la transition est composé de 15 membres, tous des généraux avec à leur tête le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno. Le mandat de la transition est de 18 mois selon l'armée. André Kodmadjingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
Plusieurs chefs d'État africains ainsi que le président français Emmanuel Macron assistent à N'Djamena aux funérailles d'Idriss Déby. L'opposition condamne la mise en place d'un conseil militaire de transition, alors que sur le plan international, il n'y a pas encore de position ferme sur la prise du pouvoir par l'armée et la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Pour une analyse, Abdelrahman Dia a joint le politologue Évariste Garlem Toldé, enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena.
Pour la France, je dirais qu'il y a deux poids, deux mesures. Récemment au Mali, ils ont demandé à ce qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Donc les Tchadiens ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui la France ne peut pas exiger la même chose aux militaires. Je me rappelle en 90, lorsque Senabré avait quitté N'Djamena, c'était les militaires français qui avaient assuré la sécurité du président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les Tchadiens sont quand même surpris que le président de l'Assemblée soit abandonné à son triste sort. Il a été convié, sinon invité par les militaires à la présidence. Il aurait dit qu'il est malade, mais ça n'a pas été devant les médias parce qu'on attendait à ce que, après l'annonce dans les médias du décès du chef de l'État, que le président de l'Assemblée nationale puisse se prononcer aussi devant les journalistes Ça n'a pas été le cas. Donc c'est cet argument-là que la France reprend en son compte.
Donc pour vous, c'est un peu l'aspect stabilité, l'aspect sécurité qui a poussé la France à accepter cet état de fait.
Oui, mais c'est bien cela. La France trouve normal que son allié stratégique, qui est d'abord le président de Libye, ensuite aussi le Tchad, cet allié-là soit resté entre les mains des militaires, que le Tchad reste entre les mains des militaires, d'accord, mais les Tchadiens ne comprendront pas toujours pourquoi c'est le fils qui prend la place de son père. De surcroît, il y a des militaires qui peuvent assurer la transition. Pourquoi choisir le fils en lieu et place du père?
On ne voit pas non plus d'opposition forte de la part de l'Union africaine ou même de la communauté des États d'Afrique centrale.
Oui, vous avez entièrement raison de ce côté. Cette Union africaine qui refuse la prise de pouvoir par des voies non constitutionnelles n'a pas réagi, vous avez entièrement raison. C'est ce silence-là qui inquiète, qui plus est, cette organisation est dirigée par un compatriote qui est resté jusqu'à là, c'est lancé comme une carpe. Dirait-il que c'est le propre des Africains, ils attendent que la France se prononce, et effectivement, comme la France est en train de prendre position pour le Conseil militaire de transition, vous verrez que tout le monde va s'aligner dans cette voie-là, et puis l'Union africaine fera la même chose, et la francophonie, et puis cette organisation sous-régionale suivront. Là, vous avez vu déjà la divergence entre les États-Unis et la France. Donc,
et pour vous, où est-ce qu'on va après tout cela?
Mais où est-ce qu'on va? C'est un saut dans l'inconnu.
C'était Évariste Ngarlem-Toldé, joint à N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien, 24/24, sur VOA Afrique, à N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
En République démocratique du Congo, l'auditorat général des FARDC a officiellement lancé un avis de recherche à l'encontre du général John Numbi, poursuivi pour association de malfaiteurs et assassinat des défenseurs des droits de l'homme Floribert Chebea et Fidel Bazana. Des détails avec Marius Muhunga.
Poursuivi pour association des malfaiteurs et assassinat des Floribert Chebea et Fidel Bazana, c'est ce qu'on pouvait lire dans l'avis de recherche lancé le 14 avril 2021 par l'auditeur général des FARDC, Lucien René Likulia. L'ancien inspecteur général de la police nationale congolaise est accusé d'avoir fait assassiner en juin 2010 le défenseur des droits de l'homme, Floribert Chebea, et son chauffeur, Fidel Bazana. En 2012, un haut tribunal militaire avait refusé d'examiner son rôle présumé dans la même affaire et John Numbi était simplement entendu en tant que témoin. Sous sanctions américaines et européennes depuis décembre 2016, ce proche de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, était également accusé d'avoir, en 2008, réprimé durement les manifestations du mouvement Bundu dia Congo, qui avait tué plus de 200 personnes, selon les enquêtes menées par Human Rights Watch. Selon Maître Georges Kampiamba de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, John Numbi se trouverait au Zimbabwe.
Lorsque John Numbi a quitté la province du Katanga, précisément le Haut-Katanga, Lubumbashi, il s'est rendu au Zimbabwe en passant par la Zambie. Et donc, nous sommes certains que jusqu'à ce jour, il se trouve encore sur le territoire du Zimbabwe. Le gouvernement congolais doit exploiter les mécanismes diplomatiques pour obtenir carrément son extradition. Et je sais aussi que dans le cadre de la SADC, il y a les mécanismes d'entraide judiciaire. Donc, le gouvernement congolais peut facilement activer ce dispositif et mettre le gouvernement zimbabwéen devant ses responsabilités en ce qui concerne son obligation de collaborer dans le cadre de la répression des crimes graves.
Pour la veuve de Floribert Chebea, c'est une grande joie et une victoire.
C'est une joie pour nous parce que la justice maintenant reconnaît que John Numbi, c'est celui qui était le cerveau moteur de l'assassinat de mon mari, Floribert Chebea et Bazana Chidel. Donc pour nous, cette reconnaissance, c'est vraiment une victoire pour nous, une première. Nous espérons que malgré qu'il a fui, nous savons que la justice congolaise est efficace et donc il va chercher par tous les moyens pour le dénicher là où il se cache, donc pour qu'il soit arrêté dans le pays où il se trouve, pour qu'on puisse l'extradier au Congo, pour qu'il soit jugé pour ses crimes. C'est ce que nous espérons. C'était une république de criminels. Maintenant, la gouvernance a changé, l'alternance est là. Notre frère qui est là, et le président Félix Tshisekedi. Et c'est un fils du pays, donc il est soucié que notre pays puisse aller de l'avant. Oui, je demande à la justice congolaise de travailler correctement, d'être indépendante comme nous le souhaitons tous.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Sénégal comme ailleurs, le Ramadan est un mois de solidarité. Des associations, des personnes de bonne volonté ou encore des jeunes distribuent des repas pour la rupture du jeûne, communément appelé Ndougou. Cette année, des jeunes catholiques ont pris l'initiative de distribuer des Ndougou à leurs frères et sœurs musulmans pour renforcer un peu plus la cohésion sociale entre les deux communautés religieuses. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagui.
Il y a déjà la tradition de Pâques avec la bouillie à la pâte d'arachide que les catholiques partagent avec les musulmans. Maintenant, il faut compter sur les repas, communément appelés Ndougou, qui sont généreusement préparés et distribués pour la rupture du jeûne durant les 5 mois de Ramadan. Marie-Cardinal Ndiaye Boy, coordonnatrice de l'initiative, explique comment la fraternité entre les deux communautés religieuses a donné naissance à cette action.
Je fais partie d'un groupe qui est sur Facebook qui s'appelle Let's Go Sortir au Sénégal. Et dans ce groupe, il y a des musulmans comme il y a des chrétiens. Donc on avait l'habitude de se charrier pendant le mois de carême. Donc les musulmans sont partis à Serras et manger pour s'amuser, histoire de charrier. Donc nous aussi, on s'est dit que on va se venger pendant le mois de Ramadan. Donc nous sommes aussi partis à Serras le samedi dernier. On a mangé, on a posté des photos dans le groupe. Et on s'est dit, pourquoi pas créer un Ndougou. Mais l'idée vient d'un ami qui s'appelle Étienne Dour.
Une belle initiative que salue Amadouka, un riverain du quartier Liberté 6 où a lieu la distribution. Pour lui, cela ne fait que raffermir les liens entre les deux communautés.
Je salue cette belle initiative. Le Sénégal est un pays de paix. Cet élan de solidarité symbolise le dialogue islamo-chrétien et la cohésion entre les deux communautés. Vraiment, je suis fier de ces initiateurs.
Renforcer l'entente entre frères et sœurs musulmans et chrétiens est justement le but de cet événement. Marie-Cardinal Ndiaye Boy.
On s'est réunis, on a cotisé chacun. Et Étienne a fait l'affiche, donc il a mis mon numéro et c'est parti comme ça. Pour raffermir les liens entre chrétiens et musulmans. Et tout le monde sait qu'au Sénégal, nous sommes pratiquement, dans le monde entier pratiquement, nous faisons partie des pays où musulmans et chrétiens cohabitent vraiment dans la bonne entente.
Il faut pérenniser et vulgariser de tels actes, c'est du moins l'avis de Saliou, ce fidèle mouride qui a bénéficié du Ndougou, qualifie cette initiative de touchante.
Ah, initiative, vous refaites là, deux guillards, parce que l'on n'a pas deux guillards.
C'est en effet une belle initiative. Avoir le sens du partage est une vertu qui incombe à tous. Donner de la nourriture aux nécessiteux est un geste louable. Je remercie vivement les initiateurs et je les encourage à le faire durant chaque Ramadan s'ils en ont la possibilité et les moyens, bien sûr.
Alors, est-ce que c'est un événement à refaire? Marie-Cardinal Ndiaye Boy ne l'exclut pas.
Pourquoi pas? Et pourquoi pas aussi faire la même chose pour nous, catholiques, puisque nous le faisons pour les musulmans. Pourquoi pas même faire ça pendant le carême?
Le Ramadan rime avec partage, recueillement et solidarité à travers la distribution des repas communément appelés Ndougou aux musulmans. Les catholiques ont voulu une nouvelle fois montrer leur attachement aux valeurs qui fondent la société sénégalaise. Ils ont d'ailleurs tenu à préciser qu'ils le font uniquement dans le but de consolider les liens de fraternité qui existent entre les deux communautés religieuses. Seydina Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.